Toute cette semaine, la Grenouille vous propose d'écouter une série de 5 chroniques sur la défense des droits et libertés sur Internet. Nous sommes allés à la rencontre de Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net, une organisation qui intervient notamment dans les débats concernant la liberté d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur des télécommunications ou encore le respect de la vie privée.
Dans les locaux de la Quadrature du Net, en compagnie de Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net.
Le micro ici, ça va ?
Le micro ici, tu peux te rapprocher un petit peu ?
Un peu, ouais.
Dans les locaux de la Quadrature du Net, fonds de défense de la net neutralité.
Non. Ça, c'est autre chose, le FDNN.
Ah bon ?
Oui, voilà. On est juste la Quadrature du Net.
Alors, FDNN. On reprend.
La Quadrature du Net est une organisation de défense des libertés sur Internet. Nous sommes une sorte de caisse à outils citoyenne. Nous bâtissons des outils pour permettre aux citoyens de comprendre les processus politiques ou législatifs qui attaquent leur liberté sur Internet, et des outils pour leur permettre de réagir, d'agir, de participer dans le débat public.
Alors la proposition, c'est tu vas nous accompagner toute la semaine pour essayer de comprendre un peu quelques enjeux du web. Et puis nous terminerons cette semaine avec les propositions qui sont proposées par la Quadrature du Net.
Pire que le grand oral de l'ENA, ton histoire.
Quatrième moment avec Jérémy Zimmermann dans les locaux de la Quadrature du Net. Et j'aurais aimé aujourd'hui qu'on parle non de Wikileaks, parce que hier on parlait de ACTA, que Wikileaks a participé non à la possibilité qu'il y ait des fuites sur les documents d'ACTA, que d'ailleurs on n'a pas de fuite sur le document CEFTA. Wikileaks nous manque là.
CETA.
Et donc ce Wikileaks qui nous manque, comment on en est aujourd'hui non, face à cette situation ou par exemple, comment se fait-il que ça ne s'est pas généralisé ou qu'on n'a pas eu d'autres non petits Wikileaks ?
Alors, plein de questions en une. Déjà Wikileaks. Wikileaks, c'est à mon avis essentiel pour nos sociétés, pour nos démocraties, à plusieurs titres. D'abord parce que Wikileaks, c'est la démonstration qu'un petit nombre d'individus peuvent avoir une idée, inventer quelque chose, l'expérimenter sur Internet, le porter à bout de bras et arriver à une attention mondiale. Donc Wikileaks d'abord comme la preuve qu'un Internet ouvert, qu'un Internet libre permet à chacun d'inventer, de s'inventer, d'inventer des modes d'action, d'inventer des modes de participation citoyenne. Donc pour ça, pour moi, Wikileaks est extrêmement important. Ensuite, Wikileaks est essentiel pour la démocratie parce que le comment dire en français, le whistleblowing, donc le fait de les lanceurs d'alerte, le lancement d'alerte, bref.
Lanceurs d'alerte.
Ouais, le fait de lancer des alertes est non seulement une composante essentielle de la liberté d'expression, mais également une composante essentielle des contre-pouvoirs dans tous les systèmes politiques. Or, on constate depuis des années que les gouvernements occidentaux ont tendance à abuser du secret. Le nombre de documents classés secrets, par exemple aux États-Unis, a été multiplié par 20 au cours de 10 ou 15 ans, ou par 10 ou 15 au cours de ces 20 ans, je ne sais plus le chiffre précis, mais l'administration US a tendance à mettre des coups de tampon secrets absolument partout. Et donc, s'il est légitime que certains aspects du fonctionnement de l'État soient gardés secrets pendant un certain temps, sous réserve qu'il y ait un rétrocontrôle démocratique, que quelques années après, des commissions puissent déclassifier ces documents et que le public puisse y avoir accès, il est manifeste que le secret est utilisé pour cacher des yeux du public des agissements. Et quand les représentants du peuple cachent leurs agissements au public, il est légitime que le public cherche à y avoir accès. Donc cette pratique du lançage d'alerte, du lancer d'alerte, on va dire, déposer un nouveau concept, cette pratique du lancer d'alerte comme une composante essentielle du bon fonctionnement de nos démocraties, moi, c'est quelque chose d'évident. Ensuite, Wikileaks comme une version moderne, actuelle, de ce que devrait être le travail de journaliste aujourd'hui. On se souvient qu'avec les warlogs d'Afghanistan et puis d'Irak, Wikileaks a fait des espèces de sessions de formation des journalistes lors de ces conférences de presse pour expliquer, alors voilà, il y a quelques centaines de milliers de documents, donc on en fait une base de données, donc on fait des requêtes dans cette base de données, par exemple comme ci et comme ça, et donc Wikileaks qui a appris aux journalistes à faire du, ce qu'on appelle du data journalisme, ou du journalisme basé sur l'analyse de grandes quantités de données, et d'une, et de deux, Wikileaks faisant ce travail de lancer d'alerte et de publication de documents secrets et d'analyse de documents secrets, là où de plus en plus on constate que chez les journalistes, il y a des jeunes gens peut-être bien sous tout rapport, mais qui sont payés au lance-pierre, à qui on ne donne pas les moyens matériels de faire du vrai journalisme d'investigation, et qui apprennent le réflexe du copier-coller des dépêches AFP, qui oublient comment on passe un coup de fil, et qui vont plutôt aller se branler la nouille sur Twitter entre eux qu'aller sur le terrain avec un crayon sur l'oreille, un carnet spiral à la main, pour faire un vrai travail d'investigation. Donc Wikileaks, qui quelque part vient supplanter, vient pallier à ce déficit de travail sérieux de journalisme d'investigation aujourd'hui, qui est quelque part peut-être à l'origine des déboires de l'organisation et de Julian Assange, parce que après avoir fait des partenariats d'ampleur historique avec les cinq parmi les plus grosses publications du monde, New York Times, Spiegel, Le Guardian, El País, Le Monde, donc un partenariat d'une ampleur sans précédent, on a vu petit à petit les journalistes de ces publications et d'autres se retourner contre Wikileaks et comme Julian Assange. Peut-être qu'il y a une partie de cette réaction des journalistes qui était, comme ce que l'on évoquait hier au sujet du droit d'auteur et d'autres dossiers, ce réflexe d'acteurs un petit peu dominants, un petit peu au pouvoir, qui sentent un petit peu menacés. Peut-être que Wikileaks, ayant porté une certaine critique du journalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, a commencé à être vu, consciemment ou inconsciemment, par certains journalistes, au moins autant comme une menace que comme un apport. Et c'est quelque chose, je pense, qui concerne tous les citoyens. Les attaques contre Wikileaks comme un phénomène mondial d'une ampleur sans précédent. En anglais, on parle de character assassination, l'assassinat d'un personnage. Et cette campagne de presse sans précédent menée contre Julian Assange, on se souvient de cette conférence de presse qui durait 40 minutes où le responsable du Pentagone expliquait comment il voulait faire arrêter les activités de Wikileaks. On se souvient de cette information selon laquelle 200 personnes travaillaient à plein temps au Pentagone pour mettre des bâtons dans les roues de Wikileaks. On a donc le Department of Defense, donc l'équivalent du ministère de la Défense, l'équivalent du ministère de la Justice et l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, sans parler éventuellement de la CIA ou du FBI, qui travaillent aujourd'hui activement à détruire Wikileaks. On a cette enquête menée par le Department of Justice en grand secret depuis le Cablegate, qui a fait intervenir je ne sais plus combien de dizaines d'institutions américaines, ce qui en fait sans doute la plus grande enquête depuis les enquêtes sur le 11 septembre aux États-Unis. Donc on a là à l'échelle internationale un mouvement qui est terrifiant, et l'impact est énorme. Vous parlez autour de vous aujourd'hui de Wikileaks et de Julian Assange, les gens vont faire « Ah ouais, la Suède, le viol, etc. » sans vous parler de ces diffusions sans précédent pour la démocratie, de documents secrets, de la vidéo de l'hélicoptère, des câbles diplomatiques, etc., qui sont objectivement ce que Wikileaks a fait pour marquer le monde et marquer une époque.
Mais c'est cela qui est étonnant, finalement, aux États-Unis, dans un pays pour la liberté d'expression, de voir que finalement, il y a un soutien, peut-être de la population, si faible pour un geste qui a été aussi fort.
Aux États-Unis, c'est différent. Parce que, alors donc, on ne peut pas parler d'ailleurs de Wikileaks et de Julian Assange aujourd'hui sans parler de Bradley Manning, le courageux soldat qui vient d'avouer avoir été à l'origine des fuites des logs afghans-irakiens, de la vidéo sur l'hélicoptère et des câbles diplomatiques, qui est en prison depuis plus de 1000 jours dans des conditions de détention qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles de la torture, qui est un jeune garçon d'un courage incroyable, qui explique qu'il a fait cela pour la démocratie, pour la transparence, pour la justice, parce qu'il était personnellement choqué de ces informations secrètes auxquelles il avait accès et dans lesquelles on voit les exactions, les crimes commis tous les jours par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un aux États-Unis il y a quelques mois, qui lui me disait « Ouais, mais Bradley Manning, c'est un traître !» Un type pourtant ouvert d'esprit pour qui Bradley Manning était un traître. Et j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais comment c'est possible, ça ?» Et en fait, Bradley Manning est peut-être un traître en fonction des lois américaines, des codes militaires américains. Donc pour quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est donc soumis à ces mêmes lois américaines, des armées qui sont celles qui régissaient les actions de Bradley Manning pourrait peut-être être un traître. Mais pour tout le reste du monde qui n'est pas soumis à cette loi américaine, Bradley Manning ne peut rien être d'autre qu'un héros. Donc il y a là une différence de perception du fait que vous soyez aux États-Unis ou non. Il y a aussi le fait que ces attaques contre Wikileaks et Assange émanent principalement des États-Unis, que de gros groupes de presse comme Fox ont participé très activement à ces campagnes contre la personne de Julian et contre Wikileaks, et donc, a priori, les citoyens américains sont encore plus exposés que ceux du reste du monde à ces campagnes de désinformation.
Une dernière chose, Wikileaks a favorisé non, cette question de la prise de conscience des données, de la publication de toutes ces données. Où est-ce qu'on en est sur, justement, la libéralisation des données, non, sur tout ce qui est les données publiques?
Alors, il y a deux choses, là. Il y a les données publiques et les données secrètes. Wikileaks a surtout œuvré pour la publication de données secrètes et la prise de conscience qu'il était d'intérêt général d'avoir accès à certaines données secrètes. Pour ce qui est des données publiques, c'est un mouvement qui s'appelle celui de l'Open Data, qui, lui, progresse bon train. Plein d'organisations comme l'Open Knowledge Foundation qui œuvrent au jour le jour pour que un maximum de données publiques soient diffusées. Ça, c'est un autre combat. C'est assez évident que lorsque des données sont produites par les deniers du contribuable, le contribuable puisse en bénéficier en retour. Wikileaks a surtout œuvré sur la publication de données secrètes. Et là, je pense aussi que quelque chose a été fait, et j'espère quelque chose de durable. C'est que nombre de nos concitoyens, nombre de citoyens ont compris l'importance et de l'information dans le rapport de force politique, de l'utilisation du secret pour protéger les gouvernements contre le peuple et du rôle d'individus courageux pour exposer les mensonges, pour exposer les crimes et pour exposer l'information secrète. Donc j'espère que c'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte et qui ne se refermera pas. On a vu un petit peu partout dans le monde des quelque chose leaks apparaître. Mediapart a fait son French leaks, donc ils ont été tout à fait surpris du succès. On a vu le VatiLeaks au Vatican, il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine qui ont expérimenté là-dessus. Donc j'espère que cette boîte de Pandore est ouverte, que ce mouvement est en marche. Mais il faut voir, et c'est une note de la CIA, qui datait de 2 ans avant le Cablegate, qui expliquait comment détruire Wikileaks. C'est très intéressant, il faut la relire aujourd'hui. Et quand on regarde avec un petit peu de recul ce qui s'est passé et cette campagne médiatique contre Wikileaks et contre Julian, on voit que ça correspond étrangement à ce qu'avait prévu la CIA, où il s'agissait déjà d'entretenir des discordes internes au sein de Wikileaks, mais surtout de taper, il disait quasiment ces termes, de taper au cœur de Wikileaks, le cœur de Wikileaks étant la protection de ses sources. Et donc d'exposer une source, ce qu'ils ont fait avec Bradley Manning, pour montrer au reste, vous savez que c'est comme à l'époque quand on coupait une tête, qu'on mettait au bout d'une pique à l'entrée du village, pour dire si vous entrez, il va vous arriver des bricoles, pour dissuader les gens de servir de source et de faire fuiter des documents. Et ça, je pense que c'est vraiment le message à faire passer, fuitez, faites fuiter, soufflez dans le sifflet, lancez l'alarme, si vous avez accès à des informations qui méritent d'être publiées, si vous avez entre les mains des secrets qui exposent des mensonges, qui exposent des crimes, faites très attention à la façon dont vous le faites, mais faites-le. Fuitez-le, publiez, c'est d'intérêt public, c'est la démocratie tout entière qui en sort grandie. Et si vous ne savez pas utiliser les outils internet pour vous anonymiser, ou si vous n'avez pas confiance dans votre connexion, soit vous le faites d'un cybercafé avec un compte que vous créez à cet effet, soit tout simplement la bonne vieille enveloppe en papier marron que vous envoyez à une rédaction. Ça fait partie, je pense, du devoir de citoyen de faire fuiter des informations secrètes qui exposent des mensonges et des crimes.
Merci Jérémy Zimmermann. Demain, qui est demain le dernier moment de cette chronique, où on reviendra, donc on parlera des propositions de la Quadrature du Net.